Un nouveau talk show pour Julie Snyder au réseau V. La semaine des 4 Julie, on l'accueille avec Catherine Beauchamp. Salut Julie.
Salut Patrick, bonjour Catherine, salut. Bonjour tout le monde.
Julie, je dois dire que la semaine des 4 Julie, pour avoir été dans des brainstorms de recherche de noms d'émissions là, et connaître des gens qui ont fait ça dans la vie, c'est un très bon titre.
Et tout le mérite revient à Stéphane Laporte. C'est vraiment, je n'y suis pour rien.
Facilement trouvé ou pas?
Il a proposé une centaine de titres. Stéphane, il fait des titres comme il y a des ados qui font des textos. Là. c'est un producteur de titres. C'est lui qui avait trouvé La fin du monde est à 7 heures, Infoman, etc. Là. Donc, il y a beaucoup de titres à son actif.
L'enfer
c'est
nous
autres, oui. Il fait des titres, Stéphane. Entre autres, hein, ça se limite pas à ça.
Il y a d'autres talents, je pense.
Oui, il écrit très bien dans la presse tous les samedis. Je t'aime beaucoup, Patrick, je te lis le samedi, mais je lis aussi Stéphane.
Mais dis-moi, justement, parlant de Stéphane Laporte, ça a été ton complice des premières heures.
Oui.
L'enfer, c'est nous autres. Il y a eu Le banquier, etc. Il y a eu l'aventure Star Academy. Mais là, on est de retour dans la forme qui a fait de vous un duo, là, c'est-à-dire
oui.
Le talk show. 25, 30 ans plus tard, c'est comment retrouver Stéphane Laporte là-dessus?
Mais en fait, c'est comme si on s'était... Stéphane, j'ai fait le Point J sans lui. J'ai fait 2 éditions de l'enfer sans lui. Mais quand on s'est retrouvés... c'était comme si on s'était quitté la veille. Puis peu importe ce qu'on fait ensemble, on est assez en symbiose. Stéphane règle beaucoup de choses de son côté et moi de mon côté. Et ce qui fait qu'on additionne notre expertise, on multiplie et on finit toujours par s'entendre. C'est bien plate. On chicanait plus quand on était en couple, quand on était jeune. Mais là, on chicane pas. Stéphane et moi, on est vraiment le club des ex, des joyeux ex, des joyeux naufragés ex.
Mais c'est ça. Donc, toujours en symbiose. Il n'y a jamais de chicane entre vous deux.
Non, on va être pas d'accord. Il va dire, ça, c'est ton point de vue. Ça, c'est ta vision. Moi, j'ai cette vision-là. Puis à la fin, c'est une des deux visions qui gagne. Moi, je veux pas avoir raison dans la vie. J'aime ça gagner. Donc, c'est pas parce que c'est mon idée qu'elle est la meilleure. Et c'est la meilleure idée qui gagne. Donc, j'ai pas d'ego. Merci beaucoup pour l'eau. On m'apporte un beau verre d'eau. J'ai pas d'ego là-dessus.
Écoute, notre collègue Thérèse Parisien était en onde un peu plus tôt avec Patrick.
Je l'ai entendu.
Je le sais que tu l'as entendu. Et puis,
je vais rectifier les faits, s'il vous plaît.
Patrick lui a demandé si c'était vrai que t'appelais les gens à 3h du matin quand t'animais des talk shows dans une ancienne vie. Elle a dit oui.
Thérèse pourrait faire une très bonne autrice de téléroman parce qu'elle fait du writer's embellishment, pour reprendre une expression consacrée aux États-Unis. Alors oui, c'est vrai. À l'époque, c'était l'époque des boîtes vocales et je laissais des messages sur les boîtes vocales. J'ai commencé ça à Radio-Canada et la boîte vocale te disait à quelle heure le message avait été laissé. Puis là, eux autres, ils se faisaient un meeting le matin en disant « T'as rendu compte qu'elle m'a appelé à 3h10, qu'elle m'a appelé à 4h20
attends,
et qu'elle m'a appelé à 5h10? »
Julie, je connais trop de monde qui ont raconté s'être fait réveiller par toi en plein milieu de la nuit par un appel pour que ce soit de la science-fiction.
D'accord, mais c'est pas parce que des fois il y a de la fumée sans feu, Patrick. Mais j'ai pas fini mon plaidoyer. Alors, ça m'est arrivé quelquefois d'appeler tard dans la nuit, mais c'était dans des circonstances particulières. Là, c'est devenu une grande légende là, que je réveille tout le monde.
Maintenant, tu vas envoyer des textos en 2019.
Non, mais moi, je dis aux gens, désactivez vos textos. Puis désactiver. Je demande à la personne, est-ce que tu désactives tes textos, toi? Et si elle me dit non, bien évidemment, je la texte pas à 3 heures du matin. Mais si elle me dit qu'elle désactive ses textos, puis j'ai une idée, j'y texte.
Tu sais qu'il y a des courriels aussi qui existent?
Oui, mais des fois, mais il y a des gens qui désactivent pas leurs courriels non plus. Mais en fait, c'est que ce que elle racontait, Thérèse, c'est qu'elle était de garde une fois par semaine. Donc, il y avait à l'époque aussi
Il y avait du monde de garde.
Oui, il y avait du monde de garde avec moi. J'avais comme une nounou.
De garde, pourquoi?
Parce que personne n'était capable de faire l'horaire que je faisais. Et d'ailleurs, elle s'est trompée. Elle disait que c'était de 10h à 11h. C'est de 10h30 à 11h30, le point J. Et personne, il n'y avait aucune recherchiste qui était capable de faire ça 4 soirs semaine. Alors, il y avait une recherchiste de garde qui restait avec moi à 11h30. Puis après ça, je rencontrais le public, les meetings. Puis là, les journaux, à l'époque, on avait des journaux imprimés. Ça arrivait à 1h du matin. Donc là, j'ouvrais les journaux, je choisissais des sujets pour le lendemain. Et là, ça pouvait durer jusqu'à 2-3h du matin.
Wow.
Alors, quand je venais de quitter la personne... Puis je savais bien qu'elle n'était pas couchée. Je l'appelais à 3h15. Je viens de la quitter. Là.
OK, parlons de la semaine des 4 juillet.
J'ai rectifié les faits.
Parlons de la semaine
des... Je sens que le juge Lagacé n'est pas convaincu. Je le vois dans sa face.
Il n'y a pas mort d'homme. OK, la semaine des 4 juillet.
Oui.
Là, tu t'en vas dans un réseau V qui va probablement passer sous le giron de Bell, qui est un géant des télécommunications au Canada. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi par opposition à être dans le V actuel qui n'est pas parti d'un... Prends ton
temps. Excuse-moi, je me suis...
Non, mais d'être à V comme ça,
oui.
Si ça passe chez Bell, qui est un géant,
oui.
c'est un avantage pour toi.
En fait, moi, j'étais à V, je ne savais pas du tout que V allait être... Je savais
mais
pas
une
que
bonne
V
nouvelle
était
pour toi, l'animatrice, en fait, la productrice, que V passe sous le giron de Bell?
Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que je m'entends bien avec les patronnes de V, alors que les patronnes de V le propriétaire de V, c'est Maxime Rimière, avec qui je m'entends très bien, puis avec qui, si la transaction fonctionne, j'espère que je vais avoir encore des relations d'affaires et de complicité. Et c'est une bonne nouvelle pour Maxime, parce que Maxime Rimière, je pense qu'il sentait qu'il avait besoin d'avoir des reins plus solides, c'était la seule chaîne indépendante au Québec, il appartenait à aucun groupe de médias, grand groupe. Et je pense qu'il sentait qu'il avait besoin, par exemple, de plus de publicité, de plus de support. Et
d'intégration,
je pense,
des chaînes spécialisées.
Il a eu la vision de prendre cette chaîne-là, de la sauver, de la maintenir à flot, d'investir beaucoup. Ils ont investi beaucoup. Maxime a investi beaucoup en V. Il a beaucoup cru. Il l'a amené là où V est rendu aujourd'hui, c'est-à-dire une chaîne vraiment prisée chez les milléniaux. Pas juste une chaîne généraliste, parce qu'ils peuvent pas se targuer à V d'être numéro un chez les 18-34. Puis en même temps, on peut pas s'étonner que les 18-34 qui ont de moins en moins le câble regardent moins la télé numériste. Donc, chez V, c'est très difficile. Quand je suis arrivée là, c'était difficile pour moi parce que c'était pas les codes d'écoute n'étaient pas importantes pour eux. Alors moi, j'ai été abreuvée à l'importance des codes d'écoute.
Qu'est-ce que tu veux dire, c'était pas important? C'était important
à TVA,
pour tout
là,
le monde
chaque jour,
en télé.
Tu regardes tes codes d'écoute.
Mais comment c'est pas important à V?
Parce que eux autres, c'est leur nombre de visionnements sur la plateforme Nouveau.ca. Parce que les jeunes sont beaucoup sur la plateforme Nouveau.ca. Ouais. Et pas juste les jeunes, il y a de plus en plus de gens qui sont sur cette plateforme-là. Alors, eux, c'est le combiné des deux. Puisqu'il y a des gens qui sont de moins en moins abonnés au câble et donc qui regardent les émissions de télé sur Internet, par exemple sur une plateforme comme Nouveau.ca, eh bien, c'est ça les chiffres qu'ils regardent. Alors, moi, c'était un choc culturel quand je suis arrivée là en disant « Coudonc, ça fait 3 jours, vous ne nous avez pas donné nos codes d'écoute. » Ben c'est parce que visionnements vont bien puis on est super contents.
Il n'y a pas la même tyrannie des codes d'écoute à V.
Pas du tout.
Que tu avais constaté chez TVA.
Ah non, mais c'est un autre monde, là.
Mais c'est drôle parce que cet après-midi ou ce matin, en fait, quand on s'est vu pour la rencontre de presse, tu disais que V avait fait une étude sur toi pour savoir si t'étais justement, si tu passerais chez les jeunes.
Mais oui!
Et ça a été concluant. Donc, ils savent.
J'espère, les 18-34. Si l'étude avait été mauvaise, je serais pas ici en train de parler de ça. Alors, oui, c'est ça, ça a été concluant. Puis ça me rassurait qu'ils aient fait une étude sur moi. Je n'étais pas du tout vexée de ça. Je me disais, ben c'est sain qu'ils fassent une étude, là. Au lieu de me lancer là, comme dans une fosse au lion, ben on va savoir. Et puis, je savais qu'il faisait une étude avant de dire oui à la proposition de talk show. Puis, ça m'a rassurée de savoir que ça fonctionnerait auprès des jeunes. Puis, tu sais, être jeune, c'est être moderne. C'est dans son... Tu sais, Mario Cyr, qui est un des collaborateurs de l'émission, ben il a 60+, mais il y a bien du monde qui a de 18-20 ans qui n'est pas capable d'aller 6 heures en dessous de la glace comme lui. Là. Et j'en connais pas, là, qui sont capables d'endurer ça. Là. Alors, la jeunesse, c'est... C'est un cliché de le dire, mais c'est comment on se sent. Moi, à 16 ans, je trouvais que j'avais des amis et des collègues à l'école qui agissaient déjà comme des vieux. Tu sais. Mais c'est ça, être jeune, c'est d'être ouvert.
Et tu as aussi mentionné le fait, tu as dit, écoute, je ne pensais pas revenir à la télévision. J'ai eu peur à un moment donné de ne pas revenir à la télévision. Est-ce que ça aurait été aussi grave que ça de ne pas faire de retour à la télévision et de continuer ton travail de productrice?
Non, ça aurait pas été... je te dirais que depuis que je suis mère, mon travail d'animatrice avait vraiment pris des pas de recul. Puis c'était pas ça qui était le plus important pour moi dans la vie. Puis ça aurait pas été grave, non. Bien, c'est sûr que je suis super contente puis super excitée de revenir. Ça fait 3 ans que je suis absente de la télé comme animatrice et 20 ans comme animatrice de talk show. Il y a eu la parenthèse de l'été indien, mais qui était comme 4 grandes émissions spéciales de type variété. talk show, c'était pas juste un talk show.
Qu'est-ce qui a changé dans l'univers du talk show, dans les attentes que le public a face au talk show, disons, depuis que tu as fait ton dernier talk show?
En fait, c'est comme la fiction, le talk show. C'est un genre de télévision. Donc, les fictions qu'on voit aujourd'hui, en 2019, ne sont pas du tout... Le montage est différent, l'écriture est différente. Il y a un rythme qui est différent. C'est la même chose pour un talk show. Ça va demeurer un talk show, mais avec... une imagerie, un décor plus actuel.
Les collaborateurs sont jeunes aussi, en général.
Oui, c'est ça. Mais c'est comme, bon, il y a des très jeunes collaborateurs, mais il y en a des plus vieux comme Mario, Martin Allard.
Dominique Paquin.
Ouais. Moi, j'ai des amis de 75 ans qui sont super jeunes. Là, puis j'en ai de 25 ans que je trouve ben vieux. Là. Et donc, oui, on a Dominique Paquin, c'est vraiment le drôle parce que on met toujours la pression sur les femmes de maigrir. Alors, je pense qu'on va se venger collectivement. C'est un gars sur Dominique. Il va avoir la pesée officielle de Dominique.
Ben voyons.
Oui, on fait la pesée officielle.
C'est du fat shaming, ça?
Et là, il va... Non, mais ça vient de lui. Là. Lui, il veut perdre... Il l'a dit, il pèse 232 livres, puis il a déjà pesé 180 à la même taille. Alors, il veut perdre du poids pour être en forme pour ses spectacles, parce qu'il donne énormément de spectacles, Dominique Paquet, là, c'est fou, là. Et là, il est coaché par Martin Allard, qui est naturopathe et un champion de fitness. Je sais que ça se dit pas dans la même phrase, mais... donc,
il donne pas des conseils de nutrition?
Oui,
aussi,
oui, c'est ça. Oui. Donc, aux vedettes de la télé, comme à Claude Legault et tout ça, quand un acteur veut être en forme.
Mais
pour
toi,
un rôle.
Tu as travaillé avec Martin Allard.
Moi, j'ai travaillé avec Martin Allard. Et là, on va faire aussi des expériences sur Dominique. On va l'envoyer faire de la cryo, je sais pas quoi, là. En tout cas, il se met dans une grosse boîte ronde et la température va descendre pas à moins 30 degrés, là, à moins 140 degrés. Là, il y a juste...
Comment il va faire pas pogner d'hypothermie?
Mais il paraît que si ta tête est en dehors de ça, puis c'est contrôlé dans une clinique, et là, il paraît que ça te régénère. C'est pas juste une perte de poids, c'est une...
On veut une perte de chair.
Une perte de chair. On veut le perdre. Finalement, ça va être une perte totale, Dominique Paquet, à la fin de tout ça. Mais on va suivre. C'est une remise en forme qu'il veut, Dominique, aussi.
Dans le choix des collaborateurs, à quel point leur présence sur les médias sociaux puis leur potentiel sur les médias sociaux a été pris en compte pour les sélectionner?
Zéro.
C'est pas un facteur.
Non, c'est pas un facteur. C'est comme moi, là, quand on entend parler des A, des B, des C, moi, j'aime ça avoir des Z à l'émission. Tu sais, des gens que personne connaît, puis justement, le public est super intelligent, puis quand on présente quelqu'un, puis qu'on met en contexte, puis qu'on fait l'effort de faire découvrir cette personne-là, ça devient aussi intéressant. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir des stars québécoises, puis c'est sûr que j'aime beaucoup les artistes québécois, mais... Zelda Lagrange, si je dis je reçois Zelda Lagrange, c'est totalement une Z, c'est le cas de le dire.
Rappelle-nous qui est Zelda
Lagrange. Mais c'est ça,
mais
Zelda Lagrange, je la connaissais même pas. J'ai lu son livre Bonjour Monsieur Mandela. Elle était raciste, elle était blanche. Son père lui a dit, quand Nelson Mandela a été libéré, il a dit « Hey, sort de la piscine tout de suite, le terroriste est sorti de prison. » Ils se sont encabanés, ils ont mis des cannes de conserve. Puis elle s'est retrouvée par hasard, sténodactylo, à travailler pour le bureau du président.
Et Mandela.
Il lui a parlé en afrikaner, la langue de l'oppresseur raciste et tout ça. Il lui a parlé, il a tenu sa main alors qu'elle avait appris qu'il ne fallait pas toucher les Noirs. Et au final, elle est devenue sa porte-parole pendant 19 ans. Elle a choisi de ne pas avoir d'enfant pour le suivre. Et il la réveillait.
Il a réveillé au milieu de la nuit.
Ben oui.
Bref, il était pire que toi.
Il était pire que moi. Il avait juste un petit peu plus de talent que moi, tu sais. À peine. C'est juste, mais tu vois, ça m'a encouragée quand j'ai su qu'il a réveillé la nuit. Non. Mais tout ça pour dire que quand on lui parle à elle, on la découvre, c'est passionnant, même si c'est pas un gros nom A++. Là. Donc, c'est un mélange de tout ça qui va faire le talk show.
Je veux parler un peu d'occupation double parce qu'on a un peu, on fait des blagues avec ça, Catherine et moi, parce que moi, je regarde ça avec beaucoup de détachement, avec un gros
grain de sel. Oui, mais t'en parles souvent dans ton émission de radio
absolument.
Parce que ça doit être bon pour tes codes d'écoute, Patrick. Ah oui.
Mais je veux juste dire que la chronique sur Kevin va bien présentement.
Oui, ah oui,
c'est ça.
Il y a énormément de relecture.
Oui, parfait. C'est ça.
Mais écoute, il y a eu un épisode, là, il y a peut-être une semaine ou deux où il y a des gens qui se sont sentis interpellés parce que Kevin, justement, Kevin la moustache, se faisait cibler par beaucoup de commentaires méchants. Et là, on disait, c'est de l'intimidation, etc. Et là, la production a envoyé un communiqué de presse pour dire, on a rappelé aux gens d'Occupation double d'être gentils un envers l'autre, etc. Moi, la question que je me posais en voyant le communiqué de presse, c'est pourquoi vous avez choisi au montage de diffuser tout ça?
Bien, je vais te le dire, bien franchement, ça nous arrive d'en échapper. On l'a échappé. Je te dirais pas que c'était une bonne idée, que si c'était à refaire, on aurait repassé une couche là-dessus. Je pense qu'on aurait dû élaguer. L'erreur est humaine, il y a des couches de vérification et on livre à la dernière minute. On dit oui, mais c'est tourné 3 semaines d'avance. Oui, mais le temps que les disques durs arrivent, que tout ça soit numérisé, qu'on passe de 800 heures de télé, de captation, de 72 caméras 24/7 à 90 minutes. Et on l'a échappé. C'est pour ça qu'on s'est excusé. Si on avait pensé qu'on ne l'avait pas échappé, on ne serait pas excusé. Et oui, on avait rencontré en amont les candidats pour leur parler de ça. Et on a eu une autre rencontre avec eux après. Et c'était inacceptable de laisser ça comme ça. On aurait dû... on l'a reconnu. On a reconnu notre erreur. On a essayé cette année de leur donner une formation sur le racisme avec Lucie Pagé, la journaliste Lucie Pagé, dont le mari est devenu ministre sous Mandela, justement. Donc, on a essayé de prévenir ça. On a donné une super formation aux candidats-candidates et à notre équipe aussi. On a, pour nous, la notion de consentement, on a voulu révéler au public qu'il y a 2 lits dans la maison de l'amour. Donc, le lit se sépare en 2. Les candidats, on a révélé des secrets de production, comme ils ont toujours 2 chambres en voyage, c'est leur choix ou pas. Donc, la notion de consentement, le racisme, on a bien travaillé ça. On a échappé l'intimidation et on ne l'échappera plus. Mais le mérite que ça a, ces erreurs-là, c'est que ça nous a fait réfléchir. On en a parlé dans les médias. Et j'espère qu'on reproduira plus notre erreur l'année prochaine.
Bon, mais 2 morceaux de robot, Julie Snyder, pour le meilleur culpa. on continue l'entrevue. Après la pause, il est à 18h19. 18h23, de retour en studio avec Catherine Beauchamp. On accueille Julie Snyder pour la petite fin d'émission. Julie, ça va s'appeler la semaine des 4 Julie. Très bon titre, je le dis encore. AV, ça commence lundi 6 janvier à 21h. Ta plus grande angoisse dans ce retour au talk show, c'est quoi?
Je suis toujours angoissée avant d'aller en onde, donc c'est j'ai plein d'angoisse. Mais moi, je pense toujours que c'est une erreur que je sois là. Avant l'été indien, je pleurais dans la roulotte en disant à Stéphane, il y a une raison pourquoi il s'en est jamais fait de show entre la France puis le Québec comme ça. Là, mais c'est parce que ça se fait pas. Puis là, je veux pas sortir. Je voulais pas sortir de la roulotte. Puis là, Stéphane m'avait dit, ben regarde, le décor est tellement beau. Là, vas-y, ça va avoir l'air bon dès que tu vas arriver. Puis après ça, tu vas sentir que c'est bon, puis tu vas être bonne. Là, puis...
Stéphane, il est capable de te gérer, dans
ouais,
le fond.
Oui, Stéphane, il me dit, ouais, c'est beau, le décor est beau, ça va marcher.
Mais tu dois quand même être moins nerveuse qu'il y a 20 ans, 25 ans.
Non.
Non?
Non, non.
Pourquoi? Qu'est-ce qui t'énerve?
Ben,
le monde t'aime, ça a marché tes affaires, pourquoi ça marcherait plus?
Ben, c'est peut-être parce que t'as peur que ça marche plus, que ça marche aussi. C'est comme si tu prends rien pour acquis. Des fois, je me sur-prépare pour une entrevue, là. Je pourrais comme, tu sais, je peux lire jusqu'à 1 heure avant l'entrevue. Il faut qu'on m'arrache le dossier. Là. C'est toujours aussi de trouver l'équilibre entre les gens qui connaissent beaucoup, beaucoup cet artiste-là. Par exemple, Ellen DeGeneres. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis il y a des gens qui la connaissent pas tant que ça. Ils connaissent le nom parce qu'elle est aussi, tu sais, il y a un sondage qui est sorti à travers le Canada qu'après Michelle et Barack Obama, c'était la personnalité la plus appréciée des Canadiens. Mais il y a des gens qui la connaissent pas tant, qui connaissent pas son œuvre, qui savent, ben, tu sais, il y a beaucoup de gens qui savent pas que c'est elle qui a fait la voix de Dory dans Nemo. Mais il faut que tu l'expliques. Il faut que tu dises des choses nouvelles aux gens qui la connaissent, puis des choses qui expliquent, tu sais, toute cette équilibre-là, c'est marcher sur un fil sans filet, sans longe, animé et interviewé. Et parfois, tu tombes. Et ça fait mal quand tu tombes, quand tu fais des erreurs. Mais c'est ça aussi que les gens aiment, je pense, avec le direct. C'est quand tu te quand
en tout cas, plantes. Moi, j'ai vraiment hâte de te voir avec le lion parce que Julie nous a parlé à quel point elle était dans une cage avec un lion à côté. Je vous garde le suspense. Vous verrez ça le 6 janvier.
Ça commence le 6 janvier, 21h. Merci,
Sandra,
d'être venue nous voir. Et bonne chance avec la semaine des 4 Julie. C'est tout pour... Le Québec maintenant. Merci Catherine
Merci
Beauchamp.
Patrick.
Merci d'avoir été à l'écoute. On vous laisse au bon soin de Danny Dubé et Martin McGuire en direct de Columbus où le Canadien affronte les Blue Jackets.